Donc, relire encore le début du chapitre 19 du premier livre des rois, c'est une manière de l'apprendre par cœur, en le lisant et relisant. Nous irons simplement du verset 1er au verset 10 pour notre lecture de ce matin. 1 roi 19. Verset 1er au verset 10. Où il est écrit qu'Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda à la mort en disant « C'en est trop, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Nous allons faire un saut dans le Nouveau Testament, Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, verset 10 et suivant jusqu'au verset 15. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Laissez-vous revêtir de toute la panoplie de Dieu afin de pouvoir tenir bon. Tenir ferme, vous tenir debout contre les manœuvres, les méthodes, les stratégies du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute la panoplie de Dieu afin de pouvoir résister ou tenir debout dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez debout, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtant la cuirasse de la justice, mettant pour chaussure à vos pieds le zèle ou la promptitude, que donne l'évangile de paix. Voilà, nous arrivons à notre troisième étape sur l'itinéraire du découragement. Et vous vous souvenez qu'après avoir terminé notre introduction hier, avec ces deux premières conclusions déjà, ne nous croyons jamais trop forts, ne nous croyons jamais trop faibles, nous avons commencé à nous pencher sur la première cause à ce crack du grand crack, en indiquant les circonstances difficiles traversées par Élie, et plus particulièrement, de manière plus pointue, la durée et l'accumulation des difficultés. Nous avons passé pas mal de temps hier à nous pencher sur le cadre historique, économique, social, politique, et bien entendu, le cadre spirituel de l'époque d'Élie, sous la monarchie d'Akab, fils d'Omri. Oh, il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire. Je pensais, nous ne le ferons pas, mais je pensais simplement, peut-être pour nous remettre dans le bain du climat de l'époque, souligner ce qui est au dernier verset du chapitre 16, c'est-à-dire le verset 34, où il est dit que du temps d'Akab, donc 1 roi 16-34, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, un de ses promoteurs et constructeurs de l'époque, un de ses nouveaux riches, vous vous souvenez de tout ce qu'on a dit, de l'urbanisation d'Israël. Et voilà donc un exemple qui montre jusqu'où vont ces urbanistes, constructeurs, etc. de l'époque. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous avez là une expression toute crue de la mentalité qui sévissait à cette époque, parce qu'il est fait ici allusion à la conclusion de la chute de Jéricho dans Josué 6, où il est dit que ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Et donc là, il y a une violation à main levée, volontaire, orgueilleuse, d'un enseignement des Écritures que, bien entendu, Hiel de Bethel devait connaître. Le refus de prendre la parole de Dieu au sérieux. Alors on s'est posé beaucoup de questions sur ce verset 34, qu'est-ce qu'il signifie? Et si nous le lisons à la lumière de nos mentalités occidentales, nous sommes tentés de dire que Hiel de Bethel a été frappé dans sa famille, il y a eu deux catastrophes, pendant qu'il reconstruisait, n'est-ce pas? C'est un petit peu la première idée qui vient à l'esprit. En réalité, à la lumière des découvertes archéologiques et des récits profanes de cette époque, on sait que se pratiquait dans tout le bassin méditerranéen, et plus particulièrement dans toute cette région, ce qu'on appelle les sacrifices de fondation. Et il est intéressant de savoir que l'expression « au prix de », du moins dans la version que j'ai, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les versions, Tout simplement parce que le terme utilisé dans le texte hébreu permet une certaine élasticité dans la traduction. Et on peut traduire, d'ailleurs de manière très littérale, que Yael de Bethel jeta les fondements de Jéricho sur Abiram, son premier-né, et qu'il en posa les portes sur Ségub, son plus jeune fils. Et c'était donc une cérémonie, c'était des cérémonies païennes, atroces, affreuses, qui accompagnaient la fondation des villes, l'ouverture de nouvelles portes, éventuellement la consécration d'un palais, d'un nouveau logis. De la même manière qu'aujourd'hui on pose une première pierre et qu'on a un certain nombre de cérémonies qui collent avec certaines étapes de construction, eh bien à cette époque il y avait bien entendu des cérémonies, mais des cérémonies païennes, au cours desquelles on immolait des humains, n'est-ce pas ? Donc des personnes vivantes étaient mises à mort, voire même enterrées vivantes ou mises dans des jarres, dans des longues jarres de terre cuite, et on plaçait la jarre sur une des pierres de fondation, on plaçait une autre pierre au-dessus, on scellait éventuellement si c'était nécessaire, et on a retrouvé dans toutes ces régions, par exemple à Megiddo, le tel de Megiddo est très célèbre, on a retrouvé dans quantité d'autres sites de ces traces de sacrifices de fondation. On a retrouvé le cadavre momifié d'un bébé qui était écrasé dans une jarre, dans les murs d'une cité. On a retrouvé des restes de femmes ou de jeunes filles vierges également sacrifiées de cette manière, ou encore de vieillards qui étaient là, un petit peu, pardon de le dire comme ça, mais en sandwich entre deux pierres. Et cela correspondait à ces sacrifices aux divinités du lieu, par exemple. C'était une forme d'animisme où il fallait apaiser les esprits du lieu ou se favoriser l'intervention des dieux. Alors, on leur offrait un sacrifice de cette manière. On a trouvé des choses odieuses dans ce domaine. Et vous le remarquez, comme nous l'avons dit hier, ces pratiques horribles étaient devenues, dans cette terrible décadence, celle d'Israël. Et voilà donc un homme qui non seulement méprise la parole de l'Éternel, mais méprisant la parole de l'Éternel, méprise aussi la vie de ses propres enfants. Et ça va ensemble, n'est-ce pas ? Des sacrifices de fondation, il y en a tous les jours aujourd'hui. La pratique systématique de l'avortement appartient au rite cananéen, au rite idolâtre les plus horribles de notre monde moderne. Et quand on sait qu'hélas, de plus en plus, dans le monde évangélique, on accepte certaines pratiques, soi-disant au nom d'eux et au nom d'eux, n'est-ce pas ? Eh bien, on voit aussi où l'Église de Jésus-Christ est en train d'arriver, par cette élasticité de l'âme qui ne considère plus l'autorité des Écritures comme quelque chose de sérieux. On peut toujours trouver des équivalents dans notre temps de ce qui s'est passé à cette époque. Et nous avons à nous humilier de la chose. Voilà, je voulais simplement donner cet exemple parce qu'il est alors directement dans le texte biblique. Et il montre la difficulté de la vocation d'un homme de Dieu comme Élie à son époque. Alors, nous avons parlé de sa solitude spirituelle, de sa clandestinité à cause de l'esprit vengeur, de la vindicte, de la haine implacable d'Akab, mais surtout de Jézabel, parce que Akab a été un véritable pantin, c'était un homme qui... Oh, il a eu un règne brillant par certains côtés, à vue païenne, mais c'est surtout essentiellement grâce au calibre de sa femme qui prenait les grandes décisions. Quand ça n'allait pas dans le royaume, que faisait Akab ? Akab, il se couchait Et puis il boudait et il pleurait la tête le long du mur, jusqu'à ce que Jézabel vienne le secouer en lui disant « Écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu déprimes ?» Et elle réglait les problèmes en 5-7. Hein. Nous avons des récits un peu plus loin. C'était, ben, là encore, voyez, faut-il le dire. Il est intéressant de constater que chaque fois que le peuple d'Israël, que ce soit le royaume du Nord ou le royaume du Sud, se sont éloignés de l'Éternel, se sont éloignés de sa parole, n'ont pas tenu compte du message prophétique, la société s'est aussi totalement désorganisée au niveau de la famille et de l'identité masculine et féminine. C'est très intéressant. Vous avez dans le prophète Ésaïe des textes incroyable, qui montre que c'était les femmes qui se réunissaient dans les bistrots, comme on dit aujourd'hui, pour trinquer, et qui prenaient les grandes décisions. Il est question des génisses de Bazan, dans le prophète Amos, par exemple. Il est question des enfants qui dominaient outrageusement les adultes et les vieillards. Il y avait un renversement de valeurs et d'autorité dans la société, et vous avez ici le problème, pardon de le dire en ces termes, c'est comme ça, je pense que nous nous comprenons, de la démission masculine et d'un féminisme ardent, n'est-ce pas? Un homme qui n'est plus homme et une femme qui prend la place, avec les résultats que l'on sait, parce que la qualité de la femme parmi d'autres, c'est son émotivité, son côté affectif, son côté intuitif, ses qualités maternelles. C'est une merveilleuse vocation. Et heureusement, heureusement pour notre monde, qui serait terriblement dur, technique, froid, logique, implacable, s'il n'y avait pas cette vocation. Mais une fois que cette vocation est distordue, n'est-ce pas, par le péché, ces mêmes qualités d'émotivité, d'affectivité, d'intuition, cette manière de sentir certaines choses, ce côté maternel, deviennent quelque chose d'horrible. Et on sait combien la passion féminine peut devenir destructrice une fois qu'elle est aveuglée par la jalousie, etc., n'est-ce pas? Du côté de l'homme, on pourrait en dire autant, mais dans son domaine à lui, hein, dans cette logique parfois tellement froide, etc. Alors je le souligne aussi au passage, parce que, une fois de plus, la Bible est vraiment le miroir des distorsions dans la société de tous les temps, une fois que le péché règne en être. Voilà pour Akab et Jézabel. Vous avez au chapitre 18 et au verset 10 ce témoignage d'Abdias, qui lui est un haut fonctionnaire à la cour d'Akab, mais qui est un disciple de l'Éternel, dirons-nous. Verset 13, « N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. » Voyez, on parlerait aujourd'hui de l'église souterraine, clandestine, des croyants pourchassés, de la guerre des camisards, des huguenots, du désert, etc., n'est-ce pas? Vous voyez que ça existait déjà. C'était un phénomène nouveau, nous l'avons dit hier, hein, cette persécution systématique. Et puis voilà donc que dans ce chapitre 18, on arrive à un heureux dénouement. C'est la fin d'une grande période de tension et d'une période de grande tension. Élie va pouvoir respirer un peu. Il lui semble être enfin au bout de ses peines. La victoire de l'Éternel est tellement impressionnante, ce feu qui descend du ciel, alors que toutes les conditions ont été remplies pour qu'il ne puisse pas y avoir de triche. En présence, vous vous rendez compte de ces centaines et de ces centaines de faux prophètes, Vous imaginez ce qui se passe dans le cœur de d'Élie. Combien, au fond de lui-même, il doit dire, mais ouf, après cette manifestation extraordinaire de la gloire de Dieu, les choses vont changer. Et puis, c'est là que le facteur arrive. C'est là que le facteur arrive avec une lettre de Jézabel. Et d'un instant à l'autre, dans l'esprit d'Élie, tout est remis en question. Et je dirais que le problème, ce n'est pas en fait la démarche de Jézabel. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que Élie en avait déjà vécu d'aussi dur. Il avait derrière lui déjà des années de difficultés. Et j'imagine que Akab et Jézabel ont tout fait pour essayer de le retrouver. Je ne peux pas penser que, alors que Akab et Jézabel avaient entendu résonner dans le palais de Samarie, la voix d'Élie se confondant avec la voix de l'Éternel, c'est le cas dans le début d'un roi de 17, et voyant ensuite se réaliser sous leurs yeux la parole de l'Éternel, le ciel se vider de nuages, se plomber, la sécheresse s'installer, et avec elle le drame de la famine et tout le cortège d'autres maux que les famines ont toujours entraînés, n'est-ce pas? Je ne peux pas imaginer qu'Akab et Jézabel sont restés là les bras croisés, hein, loin de là. Donc le problème n'est pas tellement d'abord dans le courrier en lui-même, mais le problème est dans le fait que ce courrier, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est cette nouvelle tuile qui n'est pas forcément plus lourde que les autres, mais c'est la tuile que l'on n'attendait plus. Il y a eu une rafale de problèmes. Le Seigneur est intervenu, le Seigneur s'est occupé d'Élie, le Seigneur a caché Élie, le Seigneur lui a donné l'eau du torrent. Il y a eu ce pont aérien absolument extraordinaire avec les corbeaux, un hôtel 3 ou 4 étoiles, une nouvelle norme même, parce que de la viande à midi et le soir, il faut le faire. Donc il a vécu des choses extraordinaires. Il sait que Dieu est grand, il sait que Dieu est fidèle. Mais avec cette sorte de petit relâchement intérieur, dû au fait que l'avenir paraissait plus lumineux, il suffit d'une petite pichenette de plus, n'est-ce pas, un petit coup de plus, pour que quelque chose craque dans le cœur d'Élie, et il le dira, c'en est trop. C'en est trop. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où nous disons, Seigneur, c'en est trop. Moi, je me souviens, mon livre « Fidèle, quoi qu'il en coûte » a été écrit après plusieurs années où nous avons eu, mais tous les problèmes incompréhensibles de surcroît, au niveau de notre vie familiale, au niveau du ministère. Nous avons vécu des moments extrêmement difficiles. Et c'est vrai que je ne sais pas combien de fois j'ai dit, mais Seigneur, où sont les mesures? Mes équations spirituelles vérifiées au fil de, à cette époque, d'une trentaine d'années de vie avec Christ déjà, semblaient voler en éclats. Seigneur, mais j'y comprends plus rien. Et je bénis Dieu finalement parce que c'est ce qui a abouti à la rédaction de ce livre, qui n'est pas une chronique de la vie familiale, conjugale et du ministère de la famille d'Équerre, puisque c'est un livre qui s'appuie solidement sur les Écritures et qui présente aussi une galerie de portraits d'hommes et de femmes qui ont connu au fil de l'histoire des situations difficiles comme celle d'Élie et des torrents qui s'assèchent. Mais derrière, en filigrane, c'était notre expérience. C'était ce que nous avions vécu dans notre âme et dans notre chair, n'est-ce pas ? C'en est trop. Une limite semble dépassée dans la résistance d'Élie. Et il y a des exemples dans les Écritures qui vont dans ce sens. Je prendrai celui du livre des Nombres, si nous allons en arrière. Livre des Nombres, au chapitre 21. Nombre 21. Le contexte du début de Nombre 21, à partir du verset 4, c'est une attitude très désagréable de la part de la famille d'Israël, les Édomites, hein, Ésaü, auxquels Moïse donc s'adresse, au roi d'Édom, chapitre 20, verset 14, pour lui demander une faveur. S'il te plaît, tu sais, nous tournons déjà depuis si longtemps, tu connais nos souffrances, les souffrances de ce peuple d'Israël. En plus, c'est un immense déménagement dans le désert, 2 à 3 millions de personnes. Est-ce que nous pouvons emprunter la grande autoroute qui file tout droit et nous t'assurons que nous payerons bien les péages, que nous nous arrêterons à toutes les stations, même si l'essence et le gazoil sont pris le plus cher, nous allons respecter absolument toutes les règles pour te dédommager. Mais au moins, ça va nous éviter de faire un immense détour, parce que ça fait déjà tellement longtemps que nous tournons. Et au grand désespoir des conducteurs du peuple, et finalement du peuple quand le peuple l'apprend, le roi d'Édom dit non, pas question. Et nous avons donc, après, chapitre 21, verset 4, ces lignes, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Le texte dit, l'âme du peuple fut courte, ce qui peut se traduire soit par s'impatienter, puisque la patience dans Galates 5, 22, le mot grec traduit par patience dans Galates 5, 22, signifie littéralement avoir l'âme longue. Donc avoir l'âme courte pourrait aller dans le sens contraire. Mais ça peut aussi vouloir dire que le peuple se découragea, parce que c'est aussi une autre manière d'avoir l'âme courte, ce qui fait que certaines versions ont rendu par le peuple se découragea, là où d'autres ont rendu par le cœur du peuple s'impatienta. L'un pouvant aller avec l'autre, parce qu'il y a des impatiences et des découragements qui sont tristement mariés dans chacune de nos vies. Et donc il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alors vous voyez, on a un peu un problème du même genre. Un peuple qui a tourné, qui a tourné, qui a tourné encore. Un peuple qui a vu toute une génération mourir, les uns après les autres. Il en reste encore un certain nombre. Ce sont ceux qui vont périr là, dans cette histoire. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais il y a une nouvelle génération qui est derrière et qui prend des années. Et qui, elle, fait des projets. Et je peux très bien imaginer, avec la tradition orale, et puis tout ce qu'on a déjà décrit concernant les promesses à venir pour Israël, Vous rendez compte, on commence déjà à penser à la belle petite maison qu'on va pouvoir se payer dans le pays où coule le lait et le miel, à la tapisserie qu'on mettra sur les murs, à ce qu'on installera dans le salon, à ce qu'on plantera dans le jardin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on fait déjà des projets, on se dit il y a encore telle distance à faire, etc. Et puis là, on est condamné à un nouveau détour. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans un excellent livre que j'ai déjà lu deux fois, il est sorti il y a une année à peu près, de Ronald Dunne, Dunn, Quand le ciel est silencieux, édition Farel, 98. Et cet auteur écrit ceci: ce ne sont pas les problèmes quotidiens qui transforment notre paradis en champ de bataille. Ce sont les agressions sournoises. Nous ne sommes tout simplement pas préparés aux virages serrés que la vie nous impose, ces tournants inattendus sur la route. Au moment précis où nous commençons à contrôler notre existence, nos mains s'engourdissent et nos points d'exclamation s'arrondissent en points d'interrogation. L'inattendu et l'inexpliqué, voilà ce qui nous déséquilibre. Et Ronald Dunne parle en connaissance de cause, puisque non seulement sa femme et lui ont perdu un enfant, jeune adulte, qui s'est suicidé après des temps extrêmement difficiles, mais lui-même ensuite a connu une dizaine d'années terribles de dépression profonde dans le ministère, avec tout ce que cela peut signifier. Et le Seigneur l'a relevé et lui a donné un beau ministère. Nous avons maintenant deux livres en langue française, donc traduits. Le dernier, tout récemment, sur la question de la santé, de la maladie. Dieu nous guérit-il toujours? C'est à peu près cela le titre, qui est aussi valable que le précédent et qui est une approche solidement biblique sur la question de la maladie et de la guérison, puisqu'il y a énormément de confusion aujourd'hui aussi dans ce domaine. Donc on peut comprendre qu'il ait interrogé et dit ces choses. Pour nous aussi, donc, nous connaissons des séries de difficultés sur la route de la vie. À un moment donné, nous croyons voir le bout du tunnel, et au moment où la lumière semble poindre, un nouvel obstacle imprévu surgit et tout est remis en question. Et c'est alors que nous nous écroulons. Nous avons peut-être vécu, je le dis entre guillemets, nous nous comprenons héroïquement, des phases particulièrement difficiles dans l'épreuve. Mais là, à cause, comme je l'ai dit, de la durée, de l'accumulation, de l'inattendu, de l'inexpliqué, il faut maintenant si peu de choses pour que nous sombrions dans le découragement. Alors là, j'aimerais souligner un double enseignement et je le tirerai d'une anecdote concernant un croyant qui voyageait en train à destination d'une ville lointaine à l'époque où les trains n'étaient pas encore équipés de lumière électrique. La voie ferrée passait par plusieurs tunnels et notre ami, qui avait déjà une certaine habitude de ces voyages, était en conversation avec son voisin. Et voilà que subitement, le train est plongé dans l'obscurité d'un tunnel, et comme ce croyant a réalisé que son compagnon de voyage était tout à fait néophyte dans ce genre de promenade, il se dit: oh, quel doit être son sentiment dans l'obscurité comme cela, il n'a aucune explication. Alors il essaye de lui dire du ton le plus rassurant qui soit pour ne pas déclencher une crise cardiaque, hein, « Monsieur, mon ami, réjouissez-vous, nous ne sommes pas dans un sac, il y a un trou à l'autre bout. » Ça c'est la bonne nouvelle. Il y a un trou à l'autre bout. Et c'est parfois ce qu'il faut que nous disions, n'est-ce pas, pour encourager quelqu'un. Il y a un trou à l'autre bout. Parce que l'ennemi nous fait toujours croire, quand nous sommes dans des tunnels assez longs, hein, quand nous traversons un saint plomb, il nous fait croire qu'on n'en sortira jamais. Alors, disons-le, il y a un trou au bout du sac. Mais un deuxième enseignement est immédiatement nécessaire. Et il est lié à cette parole, cette citation, vous le retrouverez d'ailleurs dans Fidèle quoi qu'il en coûte quand il sera publié. Le pessimiste voit le tunnel, l'optimiste voit la lumière au bout du tunnel, mais le réaliste voit le tunnel, la lumière au bout du tunnel, et le prochain tunnel. Et ça, c'est notre problème. C'est aussi une manière d'agir de la puissance des ténèbres. Nous sommes tellement illuminés par l'éclat rayonnant du soleil quand nous sortons du tunnel que nous en sommes aveuglés. Et que déjà là, dans cette vallée merveilleusement lumineuse, l'ennemi est tapis parce qu'il sait que c'est une occasion favorable de nous faire plonger. Vous vous souvenez que l'ennemi s'est éloigné de Jésus jusqu'à un moment plus favorable, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a des moments particulièrement favorables pour la puissance des ténèbres face à notre vulnérabilité facile, ce sont les sorties de tunnel. Quand on boit à l'entrée cet oxygène raréfié au fond du tunnel, lorsque on regarde et on se laisse pénétrer par cette lumière merveilleuse que l'on n'a pas connue dans la sombre obscurité, ben on se laisse griser. Et généralement, nous sommes tentés à ces moments-là de baisser notre garde et dire « Ouf, c'est si bien, Seigneur !» Or, tant que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas au ciel, c'est le cas de le dire. Ça veut dire qu'il y en a un qui est à l'affût pour gâcher notre bonheur et nous faire oublier que notre vie sur la terre, c'est une succession de lieux lumineux et de tunnels. Jusqu'au bout, jusqu'au passage dans le dernier tunnel qui débouchera sur une vallée sans limite, sur un paysage idyllique que nos mots humains sont incapables de décrire, et avec un Seigneur resplendissant de gloire, mais aussi de beauté et d'amour, qui sera là à la sortie de ce tunnel, qui viendra même jusqu'à l'entrée pour nous tirer vers lui. C'est beau. Alors là, il ne sera plus nécessaire d'être vigilant. L'ennemi n'aura plus de prise, puisqu'il est défait, et que de l'autre côté, il ne peut plus rien faire. Donc c'est beau, mais nous sommes dans l'attente et nous devons nous équiper pour les prochains tunnels. Vous savez, des tunnels, il y en aura, y compris quand nous quitterons ce bel endroit. Et vous savez que les temps libres, les retraites spirituelles, les conventions, les week-ends bénis dans la présence de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, tous ces moments qui nous font un petit peu monter sur la montagne de la transfiguration, sont généralement suivis de tunnels. Oh, pas forcément des tunnels du Mont Blanc, ou, hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que inévitablement, on redescend dans la vallée, On est confronté avec le quotidien habituel, avec les factures, les mauvais coups de téléphone et tout le reste. Et combien de croyants sont déstabilisés dans la semaine qui suit un bon moment passé sur la montagne? Donc ça veut dire que autant nous devons nous réjouir d'être ensemble et vivre en plénitude ce que le Seigneur nous donne, parce que Dieu veut, nous sommes ses enfants, nous nous réjouissions pleinement, autant en même temps pouvons-nous lui dire: Seigneur, prépare, prépare demain. Je ne veux pas m'inquiéter pour demain, mais je veux être dans une saine et paisible vigilance, de manière à ce que quand on sera à nouveau dans la bagarre quotidienne, eh bien on sache que le tunnel fait partie du programme de notre vie à chacun. C'est aussi pour cela que, peut-être avant de le dire, vous avez Job. Je tiens à le préciser, parce que Job est aussi une illustration de ce que nous disons. Vous avez Job qui fait face à une série de catastrophes terribles. Les nouvelles se succèdent en rafale, n'est-ce pas? Elles touchent d'abord la périphérie du personnage, y compris ses plus proches qui sont de sa chair, sa propre famille, ses propres enfants, au-delà de ses biens. Et puis, deuxième temps, il est alors frappé dans sa chair, mais de manière terrible, de manière odieuse. Alors, l'autorisation que l'Éternel a donnée à la puissance des ténèbres, la puissance des ténèbres en a profité à fond. Mais même là, il tient le coup. Et quand sa meilleure moitié, son épouse, elle n'accepte plus et le pousse à renie Dieu et meurt. Ben, il tient le coup. Il tient le coup et sa riposte est remarquable de spiritualité, de courage, d'amour désintéressé pour Dieu. Donc jusque-là, on est émerveillé. Et puis, quand arrivent les trois mousquetaires, cette équipe de conseillers, alors c'est vrai que Job va leur dire à un moment donné: si seulement vous vous étiez tués, vous seriez au moins passé pour sage. Mais ça ne veut pas dire qu'il a apprécié qu'ils se taisent. Moi, je suis absolument persuadé à la lecture du chapitre 3, du début du chapitre 3, quand notre ami Job maudit le jour de sa naissance, au bout donc de cette semaine où il a en face de lui trois chers amis, qui se tinrent, nous dit le verset 13 du chapitre 2, assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Il n'en avait même plus d'intimité. Il n'avait plus d'intimité. 7 jours et 7 nuits, ils étaient là, à côté de lui. Sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Et puis, quand ils sont arrivés, ils ont élevé la voix, ils ont pleuré, ils ont déchiré leur manteau, ils ont jeté de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Vous croyez que cela a aidé? Vous savez, il y a des regards de pitié. Il y a des airs de commisération qui font des sacrés dégâts. On n'aide pas quelqu'un à se relever quand il est complètement en bas, avec des airs d'apitoiement et je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus la solution. Et moi, je suis persuadé que c'est ça, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il avait tenu jusque-là. Mais quand il a vu leur attitude, je suis persuadé qu'il a pu interpréter leur silence. Parce que dans leur silence, il y avait déjà le message qui allait passer sur leurs lèvres ensuite. C'était leur mentalité qui était comme ça. Ils avaient leurs équations toutes faites, et nous connaissons ces équations. Si tu es bien avec le Seigneur sera bien avec toi. Il va te couvrir de son amour, tes biens matériels vont être extraordinaires, si tu flanches par rapport au Seigneur, il va te tomber dessus. Et c'était des équations qu'on retrouve dans l'histoire de Jésus. Les rabbins raisonnaient exactement de la même manière, et les disciples de Jésus-Christ avaient souvent été à l'école de ces rabbins, et ils avaient de la peine à comprendre que Jésus ait d'autres équations. Et vous savez, ces équations aujourd'hui font beaucoup de ravages. Dans nos églises, que de croyants sont découragés parce qu'on leur envoie à la figure des équations du même genre. Et donc soyons nous prudents plutôt que de penser aux autres. Hein. Soyons nous prudents pour ne pas dire trop vite « si tu... hein » On l'a dit hier. Voilà encore un exemple. Et c'est pour cela que nous avons lu Éphésiens 6. Souvenez, Éphésiens 6, 10 et suivant. Tenez debout. Tenez debout. C'est l'altème. Hein? Tenez debout, tenez ferme. Mais le verbe veut dire d'abord tenir debout. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais on va le voir. Hein? Prenons le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et littéralement, dans la force de sa puissance. C'est extraordinaire. Nous reprenons là au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Laissez-vous revêtir de... Littéralement, c'est la panoplie de Dieu. Et j'aime ça, vous savez ce que c'est qu'une panoplie, quand on achète une panoplie pour des enfants, hein, c'est un ensemble. Alors on l'a rendu par toutes les armes de Dieu. C'est parfois un peu problématique parce que on a tendance à voir les armes quand même individuellement, voyez. Alors qu'il y a vraiment l'idée de la globalité. Vous ne pouvez pas revêtir une arme sans les autres. Et en fait, c'était la caractéristique de l'armure du soldat romain. Tout se tenait, en quelque sorte, tout était un seul tenant, et la ceinture, notamment, avait une importance absolument capitale, comme elle a souvent une importance capitale aujourd'hui pour nos chers pantalons. Mais on y reviendra. Donc, revêtez-vous de la panoplie de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, c'est le mot grec méthode, les manœuvres, stratégies, donc quelque chose qui est organisé, hein. Il est fort parce qu'il s'organise dans son système de ruses stratégiques. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Et il y a dans ce mot aussi l'idée de tenir debout, mais... amplifier, donc résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez remarqué, après avoir tout surmonté. Alors, je crois qu'il faut vraiment le souligner cela dans nos Bibles. Après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'on a, comme on l'a vu, on a le Seigneur a remporté toute une série de victoires dans notre vie, dans un combat qui s'est échelonné dans le temps. Et c'est là qu'on est tenté de déposer un peu l'armure. Alors que Dieu dit non, mais c'est là, une fois que vous avez tout surmonté, c'est peut-être là que vous êtes le plus fragile. Et viennent alors des séries d'armes, parce qu'il y a deux séries. Ça commence au verset 14 et ça va donc jusqu'au verset 15. Vous avez trois armes qui sont trois armes permanentes. Celles-ci, il faut les avoir absolument tout le temps. Je le dis tout simplement parce que les verbes sont des participes présents, seulement les trois premiers verbes. Et le participe présent, dans la langue grecque, donne une idée d'installation dans la durée. Donc, on traduira « tenant donc ferme, ou tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtant la cuirasse de la justice, mettant pour chaussure à vos pieds la promptitude ou le zèle que donne l'évangile de paix. Ensuite, vous avez une deuxième série, prenez, c'est un autre temps. Il y a là de l'impératif, prenez, et ça, ce sont les armes qu'il faut savoir utiliser à un moment donné dans les situations de conflit. Trois armes permanentes, trois autres qui sont continuellement là à notre disposition, sur lesquelles on peut se précipiter, comme le soldat qui va vite au râtelier chercher son fusil, n'est-ce pas ? Voyez la distinction à faire, mais c'est beau cette première arme, hein. Ayant à vos reins la vérité pour ceinture, précédée de cet impératif, tenez debout, littéralement tenez debout. Alors j'aime cela parce que la ceinture, c'est ce que l'on met sur le pantalon, en tout cas pour les hommes. On la serre pour pouvoir avancer. Mais vous imaginez ce qui se passerait si j'oubliais de fermer la ceinture ou que je sortais, hein? C'est ce qu'on fait avec les prisonniers. Quand on veut maîtriser et neutraliser un prisonnier de guerre, même sur le champ de bataille, on commence par lui enlever ses lacets, sa ceinture. Parce que s'il veut courir, le pantalon va descendre. Tenez debout, et pour tenir debout, mettez la ceinture. Mettez la ceinture, sinon vous ne pourrez pas. Pantalon va descendre. Et c'est bien parce que c'est la vérité. Et je suis heureux que ça commence par là. Parce que c'est la vérité à la fois objective et subjective. Objective, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dans ma vie doit régner la parole de Dieu qui est vérité. C'est la dominante. Et si l'Église de Jésus-Christ est devenue si faible dans nos pays, c'est parce que la parole de Dieu occupe trop peu de place. Et puis c'est la vérité subjective, c'est-à-dire la vérité appliquée à ma vie personnelle, qui se traduit par l'amour de la vérité, la transparence, l'intégrité, la limpidité, la marche dans la lumière, qui est une qualité fondamentale du disciple de Jésus-Christ. Dès que nous perdons notre vie dans la lumière, notre intégrité, notre droiture de cœur, notre amour de la lumière, nous allons travailler. Donc, élément fondamental. Mais tout cela, hein, autour de l'idée, après avoir tout surmonté. Maintenant, nous avons dit que la cause première était les circonstances difficiles. Mais vous vous rappelez peut-être que lorsque nous avons prononcé cela hier, j'ai tout de suite mis un bémol à quelque part, mais sans l'expliquer. Sans l'expliquer. Notre réaction première, primaire, consiste à dire ce sont les circonstances. Ce sont les circonstances, leur durée, leur accumulation, l'inexpliqué, l'imprévu. C'est tout cela qui fait que je suis dans cet état. Et ça, c'est notre problème. Ce que je veux dire par là, c'est que nous nous appuyons sur les circonstances difficiles que nous vivons pour justifier nos découragements. C'est notre moyen personnel de justification. En quelque sorte, nous trouvons là, et je le dis pour moi-même, nous trouvons là nos excuses. Seigneur, tu vois bien. Et bien entendu, si nous discutons avec quelqu'un, mais vous voyez bien, si vous étiez à ma place dans ces circonstances, feriez-vous que moi ? Et donc nous nous focalisons sur les circonstances pour dire qu'après tout, ça ne pouvait pas être autrement. Si les circonstances étaient autres, si les personnes n'étaient pas comme cela, si si mes parents avaient été plus justes, si je n'étais pas devenu si vite orphelin, si mes parents n'avaient pas divorcé, si, si, si. Ça, c'est notre problème. C'est-à-dire que nous nourrissons nos découragements, en réalité, avec des boucs émissaires appelés circonstances difficiles. C'est ce que nous allons voir. Nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Nous nous laissons hypnotiser, obnubiler par notre situation. Alors que la cause profonde de nos découragements est ailleurs. Elle est ailleurs. Et j'aimerais ici vous lire un extrait encore d'un livre qui, hélas, est épuisé depuis longtemps. Il a été écrit en 1960. Il s'intitule « Verdoyant malgré la sécheresse ». C'est un livre que j'ai dû lire 6 ou 7 fois, je pense, maintenant, jusqu'à maintenant. Et c'est l'histoire d'un couple de jeunes missionnaires, les Matthews, Arthur et Vilda, avec leur petite fille, Lila, qui avait, je crois, 2 ans au moment des événements, et qui sont partis en mission dans le cadre de la mission intérieure de la Chine, fondée par Hudson Taylor, dans une province centrale de la Chine, et dans une petite ville perchée à 3000 mètres d'altitude. Mais ils y sont arrivés en 1950, juste au moment où le rideau de bambou était en train de s'installer et donc que la Chine passait au communisme. Et donc à ce moment-là, la situation devenant rapidement très très difficile pour les missionnaires, et ils étaient très nombreux bien entendu dans cette mission à travailler en Chine, les missionnaires ont reçu l'ordre de quitter le pays. Et ils sont partis assez nombreux, et puis peu à peu, les derniers sont partis, rapatriés, et il n'est plus resté que ce couple avec leur petit. Et ils auraient bien voulu repartir, mais ils ne comprenaient pas, parce qu'ils avaient vraiment la conviction que Dieu les appelait à évangéliser dans cette région d'Asie centrale, et dans cette ville en particulier. Ils étaient partis pleins de projets, et puis voilà que quand ils sont arrivés, ils se sont retrouvés dans une situation extrêmement difficile où ils avaient désormais des fonctionnaires autour d'eux qui se sont mis à les mépriser, à les critiquer. Le petit poste pionnier avec les quelques croyants était très difficile à tenir parce qu'il y avait aussi des croyants fragiles qui ont tourné kazakh. À ce moment-là, ils ont dû commencer à se méfier de tout ce qu'ils disaient. Puis ils n'avaient plus de vivres. Bref, ils ont vécu 2 années, entre 50 et 53, 2 années extrêmement difficiles, où les autorités chinoises ont tout fait pour les casser complètement, et surtout en utilisant cette méthode redoutable du chaud et froid permanent, en leur annonçant « vous allez pouvoir partir la semaine prochaine », et puis quand la semaine prochaine ils arrivaient pour avoir les papiers pour le départ, en leur disant « mais on ne vous a jamais rien dit », etc. Et ce livre, « Verdoyant malgré la sécheresse », est extraordinaire parce que ce couple, il raconte avec une magnifique honnêteté la manière dont ils ont vécu ces 2 ans. Et à un moment donné, ayant reçu une lettre catastrophique, voilà comment ils ont réagi. Alors c'est tout d'abord l'auteur qui parle, Isobel Kuhn, K-U-H-N. C'est une biographie des groupes missionnaires. Si vous la trouvez à quelque part, dans un vieux grenier, vous savez, ça arrive, hein, surtout dans certaines régions plus que dans d'autres, ne manquez pas de vous en saisir aussitôt, bien sûr de la bonne manière. Seul dans sa pauvre cuisine, occupé aux tâches monotones du ménage, Vilda, donc l'épouse, se souvint tout à coup de deux traités. L'un était écrit par Simpson, qui était le fondateur d'une autre grande mission, la CMA, qui était un homme de Dieu remarquable aussi. Nous avons un ou deux livres en français aussi de lui. Il avait pour titre « Les si dans votre vie ». Et l'autre était de Hudson Taylor et s'intitulait « Les causes secondes ». Si seulement cette lettre ne nous avait pas été envoyée. Elle prit le traité et lut. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En fait, il aurait pu être présent car il n'était pas loin. Il connaissait toute leur épreuve et cependant il laissa mourir Lazare. Pour les deux sœurs, Marthe et Marie, c'était affreux. Je pense que dans toute vie, il y a un si. Une chose, une circonstance que Dieu aurait pu, s'il l'avait voulu, faire autre. Il est tout puissant et cependant il a permis que ce si soit posé. Je ne minimise pas ce si de votre vie, quel qu'il soit. Apportez-le au Seigneur et écoutez-le vous répondre ce qu'il dit à Marthe. À son si, il répondit par un autre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu doit résulter de ce si dans notre vie. Ne pensez pas à ce que votre si comporte. Faites-en une puissance pour Dieu. Savez-vous qu'un jour, une lumière éclairera vos énigmes? Alors, acceptez et dites, tout ce qui m'a été donné, tout ce qui m'a été ôté, contribue à mon utilité pour Dieu. Affrontez ceci dans votre vie et dites du fond du cœur, pour y répondre, j'ai Jésus. Petite racine, cherche la rivière. C'est ce que fit Vilda. C'est une allusion au titre, hein, « Verdoyant malgré la sécheresse ». Le second traité disait « Le secret de la paix intérieure d'Hudson Taylor, au milieu des tempêtes de haine qui l'assaillaient, était son refus de s'attarder aux causes secondes. Il croyait qu'il n'avait affaire qu'à Dieu, et qu'à Dieu seul. Quand sa femme bien-aimée mourut, il écrivit « Si nous sommes satisfaits de sa volonté, de ses voies, notre paix est parfaite. » C'est un beau texte. Donc nous l'avons dit, nous allons pratiquement terminer, mais j'aimerais quand même donner la note pour la suite. Nous avons dit que la cause profonde était ailleurs. Elle est dans 1 Roi 19 au verset 3. 1 Roi 19, verset 3, où il est écrit « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » Ça, c'est le mot-clé négatif d'un Roi 19. « Élie, voyant cela. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon certaines versions anciennes, on peut traduire aussi « Élie eut peur ». Ça fait partie des variantes, ce qu'on appelle les variantes possibles. Dans la lecture des textes bibliques, vous savez que surtout pour le Nouveau Testament, où nous avons à notre disposition 5000 manuscrits, bien sûr, des fragments, certains très peu entiers, mais beaucoup de fragments, mais à partir de ces milliers de manuscrits, on se rend compte qu'il y a ici et là des variantes, c'est-à-dire que 2, 3, 4 manuscrits n'ont pas forcément exactement le même texte. Ce qui est fondamental, c'est que cela ne change rien au sens profond du message. Et ça, c'est extraordinaire. Pensez que jusqu'à la découverte des manuscrits de la Mer Morte, dans lesquels figurent deux rouleaux d'Ésaïe. Jusque-là, on s'est beaucoup moqué des évangéliques qui osaient prétendre qu'il n'y avait qu'un seul Ésaïe et que ce seul Ésaïe avait pu prévoir des événements des centaines d'années à l'avance et les prévoir même avec beaucoup de précision, le roi Cyrus, etc., n'est-ce pas? Et donc on a monté un système dans ce qu'on appelle la haute critique de la théologie des modernistes, de ceux qui ne veulent pas accepter l'autorité des Écritures, et dans ce système de critique négative, on a dit « il ne peut pas y avoir un seul Ésaïe, mettons-en trois ». Et on a donc coupé le texte d'Ésaïe en trois périodes. On a mis des dates qui étaient des dates très problématiques pour nous, mais tout simplement parce qu'on ne voulait pas accepter le caractère prophétique des Écritures. Et puis, grande découverte, celle des manuscrits. Et quand on commence à analyser dans le détail ces rouleaux complets, on découvre tout d'abord que les rouleaux avaient pratiquement un millénaire à peu près de différence dans le temps, c'est-à-dire qu'ils étaient plus vieux d'un millénaire par rapport à tout ce que l'on avait entre les mains comme document sur Ésaïe jusque-là, n'est-ce pas? Et un millénaire, c'est énorme. Et ça rapproche très très sensiblement de l'époque de rédaction d'Ésaïe. Et on compare et on se rend compte qu'il y a un minimum, une infinité, mais minime de variantes qui ne touchent absolument pas du tout au fond du texte. Je crois que, si je me souviens bien, c'est entre 97 et 99% du texte qui était similaire. Sur 1000 ans, vous vous rendez compte? Sur 1000 ans d'histoire, on avait un texte qui ressemblait étrangement au texte d'Ésaïe. Ce qui souligne le scrupule de ceux qui, des copistes, notamment de ceux qu'on a appelés les massorètes. C'est là une histoire tout à fait extraordinaire. Donc je vous dis ceci pour que vous ne soyez pas troublés lorsqu'il arrive qu'on dise « Eh bien, il y a des versions qui ont rendu par tel terme plutôt qu'un autre. » Mais vous remarquez que, qu'il soit dit « Élie voyant cela » ou qu'il soit dit ou écrit « Élie eut peur », il n'y a pas de contradiction. Au contraire, il y a là deux jets de lumière complémentaires. On pourrait rendre « Élie voyant cela eut peur ». N'est-ce pas? Et c'est là le problème. Nous avons ce qu'on appelle un décrochage du regard. Et c'est ça notre vrai problème. Ce que j'appelle le décrochage du regard. Satan a réussi à détourner le regard intérieur d'Élie. Le regard intérieur d'Élie a quitté Dieu pour se fixer sur les circonstances. Et c'est toujours là que la puissance des ténèbres essaye de nous amener. Notre regard cesse d'aller dans la bonne direction. Nous commençons par nous laisser, comme je l'ai déjà dit, hypnotiser par les circonstances. Et puis, des circonstances, notre regard se tourne vers nous-mêmes. De Dieu vers les circonstances, des circonstances vers soi-même. Et en terminant, je vous fais simplement remarquer ceci, c'est que dans 1 Roi 18, vous avez, au verset 22, ce qui peut déjà apparaître comme le germe de la défaite du chapitre 19. Regardez le contenu de la parole d'Élie au peuple. « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel ». Et il y a 450 prophètes de Baal. Je suis resté seul des prophètes. Ça, c'est son analyse. Et son analyse dans 1 Roi 18 est déjà fausse. Il est centré déjà sur lui. Et en plus, cette mentalité qui est en train de se développer en lui depuis un certain temps va transpirer de sa prière dans les versets 36 et suivants. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Alors jusque-là, ça va. que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Et on a presque ce sentiment que, à un moment donné, Élie réalise qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa prière, parce que sa prière est égocentrique. Et dans le fond, Seigneur, justifie-moi. Justifie ma position. Hein, il y a le « je », il y a le « moi », je les ai entourés, « je suis ton serviteur, j'ai fait toutes ces choses, réponds-moi, réponds-moi ». Et enfin, il bascule, « afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur ». Comme il nous arrive dans notre propre vie de prière, à un moment donné d'être repris par le Saint-Esprit, qui nous dit « mais est-ce que tu n'en as pas assez d'être toujours en train de te mettre en avant ?» Si tu me mettais en avant dans ta prière. Voyez ? Donc c'est intéressant ici, parce que, je le redis, le germe de la défaite se trouve plus d'une fois dans le processus de la victoire. Nous avons peut-être remporté une victoire, mais dans cette victoire, il y avait peut-être déjà des germes de défaite. Il y avait déjà au niveau de notre mentalité quelque chose qui n'était plus tout à fait bien orienté comme cela aurait dû être le cas. Ce sont donc nos dispositions intérieures qui sont en cause. Alors nous nous arrêtons là pour cette étude et demain matin, nous allons développer ceci. Et nous allons le faire à partir de toute une série de passages des Écritures qui vont enfoncer le clou pour que nous sachions que ce n'est pas la pensée de Maurice Decker, hein, mais que c'est bien la pensée de Dieu dans les Écritures et dans l'expérience d'hommes et de femmes qui, dans les Écritures, nous ont précédés. Et puis, comme on le fait jusqu'ici, nous aurons des fenêtres d'illustration, de personnages, de citations, pour bien comprendre que c'est valable aussi pour notre temps.